17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, il est 17h02 précisément. Merci d'être avec nous. 17h, 19h, c'est le grand déballage comme chaque vendredi, vous le savez. Nous sommes ensemble pour évidemment confronter les points de vue. Alors au sommaire, ce que je vous propose, c'est plusieurs d'abord, sujets qu'on va traiter ici en direct d'ailleurs, comme chaque samedi et comme chaque vendredi. Et vous le savez, vous aussi au 01 53 48 3000, vous êtes les bienvenus pour répondre évidemment ou interagir ou tout simplement... apporter votre point de vue, votre opinion concernant les trois sujets qui ont retenu notre attention. Alors au sommaire, 17h, 17h15, alors avec la polémique qui a pris et qui a enflé, qui a pris évidemment une tournure qu'on en regrette nous aussi, hein, c'est Marianne, l'article de Marianne. Alors la question qu'on va poser, article partisan, grand point d'interrogation, article à charge, énorme point d'interrogation, c'est la question qu'on se pose après évidemment ce titre Beurre FM sanctionne deux animateurs, donc deux de nos collègues, après une rencontre avec l'ambassadeur d'Israël. Gemma Ketan, qui est la patronne, est avec nous en direct pour en parler. Tout de suite après, donc c'est H, la honte de la République, ça c'est Bruno Laforesterie, qui a écrit un ouvrage, qui sera aussi notre invité tout à l'heure. Et puis 17h30 jusqu'à 19h, eh bien ce sont nos débatteurs, les influenceurs qui sont ici avec nous pour justement confronter trois sujets d'actualité. Alors le premier, celui qui a retenu notre attention, eh ben on restera dans le ton, eh bien on parlera de justement la question de 30 ans d'existence de Beurre FM qui sont réduits à cet article de Marianne. Oui, on va en parler parce qu'effectivement avec des personnalités qui viendront eux donner leur point de vue, puis on donnera aussi le nôtre. Et puis vous aussi au 01 53 48 3000, vous viendrez témoigner, apporter votre témoignage si vous le souhaitez et raconter un petit peu toute l'histoire passée qu'on a passée, toute cette évidemment belle histoire qu'on a passée ensemble. Le second sujet, eh bien, c'est celui du rapport Benjamin Stora. Pourquoi ? On en a débattu la semaine dernière. Je veux revenir sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, 22 artistes, 22 intellectuels algériens ont saisi la question et ont donné leur opinion. On reviendra sur cette question. Et puis enfin, le véritable casse-tête du reconfinement, va-t-on y arriver ? C'est aussi une question qu'on se pose tous. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant.
Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Alors, bon, les débatteurs sont là. Vous êtes bien les débatteurs, là, dites donc. Vous m'avez l'air en forme, ça va ? Ça va les amis débatteurs ?
Oui, très bien, merci.
Bonjour, bonjour, Karim Alouache, bonjour. Aklim Melouli, Abdeslam Itache, tous présents. Ça va messieurs ? Ça va ?
Très sage, hein, manifestement.
Qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous a cloué le bec ? C'est les journalistes de TMC qui sont ici, c'est ça ?
Rien ne cloue le bec, mais ce que les
ils
gens
vous
veulent...
Ont, ils vous Adil, ont intimidé ?
Les gens ne veulent pas savoir si nous on va bien, ils veulent savoir ce qu'on a à dire. Donc c'est
bon, alors justement, on va savoir ce que vous avez à dire dans quelques minutes. Je disais TMC parce que justement, Azidine, le journaliste Azidine Chaouch est là. C'est bien ça, on est d'accord. Voilà, qui est ici en train de faire un reportage, justement sur l'article consacré sur Beurre FM qui sanctionne des animateurs. Dites-moi quand vous avez... Bonjour Gemma Ketan.
Bonjour Adil Farkan.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci.
Bon, merci d'être avec nous en direct parce que effectivement, ça méritait. En exclusivité chez nous ici, d'ailleurs, c'est la moindre des choses hein, dans notre station. Alors, deux animateurs avec le titre suivant. Beurre FM sanctionne deux animateurs après une rencontre avec l'ambassade d'Israël. Que s'est-il passé ? Quand vous voyez cet article-là, qu'est-ce qui effleure votre esprit ? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit quand vous apprenez, évidemment, cet article rédigé par Marianne ?
D'abord, bonjour à tous. Quand je vois effectivement cet article, quand j'en prends connaissance, en amont, je suis appelée par une journaliste de Marianne et je réponds donc à ses questions.
Oui.
Son déroulé est axé sur un tweet dont j'ai pas effectivement tout de suite, je fais pas la corrélation.
Oui.
Et après, je lui répète, vous me parlez de quoi, de qui, de quoi et de comment. Et de là, elle me dit, oui, vous savez, c'est le tweet de l'ambassade.
Oui.
Et là, elle me dit, voilà, Rosa Méziane, avec un co-animateur, etc.
C'est quoi le tweet de l'ambassade ?
Comment ?
C'est quoi le tweet ? Alors, d'ailleurs, ça concerne qui ? C'est les collègues Rosa Méziane, Malik Yetou, qui sont animateurs de l'émission L'actu autrement.
Exactement.
D'accord ? Voilà. Alors, ça part d'un tweet ?
Oui, exact.
D'accord.
D'un tweet où, effectivement, ce tweet donc, fait état de leur présence à l'ambassade et Beurre FM y est nommé.
Oui.
Donc, de là, on se voit, on en discute. Je dis, quand Beurre FM, effectivement, est nommé, j'aimerais être en informé que la direction de Beurre FM...
Vous n'étiez pas informé ?
Du tout. De son déplacement là-bas.
Les deux animateurs ne vous ont pas informé de leur déplacement, enfin de leur rencontre avec l'ambassade d'Israël ?
Non, je n'ai pas été informé. On a été informé d'un mail envoyé à Beurre FM.
Oui.
Ils l'ont reçu.
Oui.
Au groupe Beurre FM. Et pour effectivement avoir une invitation, donc Elle m'appelle, elle m'en parle, je lui dis non, ce n'est pas à toi d'y aller, c'est aux journalistes de la station.
D'accord. Il était question de quoi? De traiter, de mettre en place une émission autour de l'accord
L'accord entre le Maroc et Israël.
D'accord.
Donc, je lui en parle, elle me dit d'accord. Elle me dit très bien, mais j'aurais aimé tout. Je lui dis, ben, écoute, si tu veux accompagner les journalistes en question, il n'y a pas de problème.
Oui.
Et le 23 décembre, je vois ce tweet. Donc,
rappelons, pardonnez-moi, Djima Kétan, que la rédaction, les journalistes ont toujours traité les sujets d'actualité ici même, et non pas les animateurs. C'est important qu'on se dise.
Ah oui, 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 tout à fait. Il est essentiel parce qu'il y a quand même un fossé, une disparité entre animateurs et journalistes.
Oui.
Sinon, il n'y aurait pas d'école pour cette formation.
D'accord.
Si je peux me permettre. Donc, je lui demande, je lui dis que c'est un journaliste qui doit se présenter, dont Adil Farkad.
D'accord.
Je dis voilà, on en a parlé en amont, il va prendre attache avec eux pour que l'émission ait lieu en février.
D'accord.
En sachant que M. Farkad, vous allez effectivement revenir sur l'antenne au courant janvier.
Oui.
Et donc, quand je vois ce tweet, donc, moi, je lui envoie un mail, mais qui est en amont d'une discussion.
Oui.
Je lui dis voilà, la ligne éditoriale reste la même, il y a une liberté de ton sur Beurre FM. Je lui dis mais simplement, il faudrait qu'on se voie pour faire un brief. Donc, elle n'a jamais été suspendue. L'émission a continué, l'actu autrement. On a aussi discuté de l'audience. Je lui ai fait savoir qu'elle allait être déplacée, puisqu'elle ne pouvait pas faire du direct le vendredi soir, tel quel on est aujourd'hui.
Oui.
Parce que l'auditeur devait reprendre sa place pour débattre avec les débatteurs sur le plateau. C'était essentiel pour moi que les auditeurs puissent revenir. Surtout avec la situation d'aujourd'hui, le confinement et l'audience.
Oui.
Donc, elle me dit « Ok ». Donc, de là, bon, j'ai pas de rapport avec Madame Rosa Méziane. Donc, je mets en place, parce que comme elle va jusqu'au bout, je mets en place un groupe WhatsApp qui s'appelle L'Actu Autrement et je lui demande de nous envoyer les noms des invités. Elle est toujours sur l'antenne. Et lorsque je lui dis que ça va être déplacé le samedi matin, puisque c'est du PAD, elle me dit OK. Le 22 janvier, il y a des invités qui arrivent, Madame Rosa Méziane n'étant pas là. Moi, je suis pas là pour des raisons personnelles. Madame Rosa Méziane n'étant pas là, ils attendent dans le couloir. Elle ne prévient personne.
Oui.
Elle ne vient pas. Elle a abandonné, effectivement, son émission.
D'accord. Donc là, vous considérez que c'est un abandon de...
Eh ben, j'essaie de l'appeler, mais ça passe pas, apparemment. J'ai pas réussi à la joindre. Parce que moi, j'étais dans un endroit où je pouvais pas appeler à ma guise, mais je n'arrive pas à la joindre. Depuis, plus de nouvelles.
Oui.
Plus de nouvelles.
Oui.
Sur le site...
Silence radio.
Silence radio. Oui. Jusqu'à hier, jusqu'à l'appel de Marianne.
Oui.
Où je réponds.
Bien sûr.
Effectivement, ma réponse, enfin l'interview qui m'est accordée par Marianne.
Je vois, j'ai sous les yeux l'article.
Voilà. Et ben j'arrive en bout de l'article, quoi, au bout de l'article.
Oui.
Mais il n'y a pas de légitimité de la part de Madame Rosa Méziane de faire autant de bruit autour du fait que je lui demande juste d'être d'équerre et d'informer la station et sa direction des invités et de la ligne éditoriale qu'elle veut bien mettre en place.
Parce qu'il y a un moment, je récupère, évidemment j'ouvre les guillemets, l'article souligne certaines choses, je ne vais pas tout lire, mais on parle de « Sommes-nous nous-mêmes victimes d'antisémitisme par ricochet ou d'une ingérence étrangère algérienne pour éviter de parler du Maroc ?» S'interroge Rose Améziane.
Alors, je vais répondre à Rose Améziane, parce que je n'ai pas pu répondre effectivement, même si j'ai répondu effectivement à Marianne, à l'interview de Marianne, et j'ai fait état de ce qui a été dit là.
Ouais.
Nous sommes une radio française. On est né il y a 30 ans. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Elle en a 35.
Avec l'égalité pour tous, d'ailleurs.
Avec l'égalité pour tous. On a une ADN. On est issu de l'immigration. Et aujourd'hui, nous taxer, comme elle dit, parce que je n'aime pas ce mot, donc je ne vais pas le répéter, et puis de dire aussi qu'on est sur une ingérence ou sous la coupe étatique algérienne, je trouve ça déplacé et mal placé. Puisqu'elle ne connaît pas mes origines, je ne connais pas les siennes. Et surtout que la radio... C'est la radio, ceux qui la font, la station, qui accompagne ses auditeurs, ne sont pas tous d'origine maghrébine.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Et aujourd'hui, on a
d'ailleurs,
traversé
nos auditeurs, on a le traversé sait avec nos auditeurs.
Des générations, on est issus de la diversité de cette mixité. Puisque aujourd'hui, moi qui suis d'une autre génération que celle de Rosa Méziane, mes enfants sont français, avec d'autres origines.
Oui.
Donc ce sont ces jeunes-là qui nous écoutent. Et on a gagné ce pari à accompagner des générations. On a pu faire ça. Vous vous rendez compte sur quelle bassesse et sur quel point elle nous a mis?
Oui.
Elle nous a accordé, comme si on était une petite, et que je respecte, une petite radio pirate qui dirait, ben non, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci.
Oui.
Elle a eu effectivement une indépendance sur sur cette radio. Peut-être ce que je disais tout à l'heure, parce que je suis une femme moi-même, je lui ai laissé ce bénéfice du doute, malgré qu'on m'avait prévenu. Voilà. Je peux l'attaquer en diffamation. Le visage de Beurre FM, il faut qu'il soit connu aussi.
Ouais.
Peu de gens me connaissent.
Bah, TMC et là ce soir quotidien voilà. de Yann Barthès sont là ce soir.
Exact. Non mais oui, bon. Exact.
Bah, j'espère en tout cas qu'ils retiendront certaines choses. Oui, incarné par Asdin Chaouch qu'on connaît tous évidemment.
La discrimination.
Exact. Donc si vous voulez voilà. Donc aujourd'hui elle avait toute la place. Donc suite à une perte d'audience et puis surtout ce qui est paradoxal c'est que elle le savait très bien. Je veux dire toutes les radios sont amenées à revoir leur grille.
Bien sûr. Oui.
Il y a un repositionnement, c'est par bloc, de la matinale, de l'après-midi, de l'émission politique, de l'émission vers les auditeurs. Et l'auditoire, l'auditeur a sa place.
Oui.
Alors, l'expression est importante chez nous, le retour des auditeurs.
Alors, quelle suite on va donner à tout ça? Parce que je sais que le porte-parole de l'ambassade d'Israël, lui, il a été clair. Il dit que, de toute façon, il veut que les relations se nouent entre juifs et arabes dans la situation, évidemment, qui peut avoir un impact en France. On va tout dire à nos auditeurs. On a eu un échange ce matin avec l'ambassade d'Israël.
Bien sûr.
D'accord, ça s'est très bien passé. Évidemment, cela se traduira par une émission spéciale. On en parlera, on parlera de sujets. Comme c'était prévu d'ailleurs.
Exact.
Avec des sujets qui fâchent ou pas, on abordera les sujets comme on a toujours, comme on l'a toujours fait. On
exact.
Est d'accord?
Bien sûr, tout à fait. Je veux dire, il n'y a pas de. Toute l'actualité dans son ensemble est traitée à Beurre FM. Voilà. Ouais. Avec du temps. C'est des réunions. Il y a une concertation. Voilà. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, sous prétexte qu'on est simplement connu sur d'autres médias, ou qu'on a une reconnaissance sur d'autres médias,
oui.
parce que ça peut faire pchit hein, du jour au lendemain, donc qu'on peut nous imposer, effectivement, de la façon dont on doit travailler.
Parce bon, que est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation dans tout ça?
Je sais pas. Mais me dire, et me répéter, parce que c'est pas la première fois que je l'entends de la part de Mme Améziane. Pourquoi n'ai-je pas été concertée?
Ouais.
Je ne comprends pas. C'est l'aisance qui a fait qu'il fallait que je concerte.
Mmh.
En parler, on en a parlé, mais voilà. Donc, instrumentalisation, peut-être, pour elle, mais je n'ai pas envie de rentrer dedans parce que, encore une fois,
ouais.
la radio n'est pas sur cette frange-là.
Elle n'a pas été évincée, comme le dit l'article Marianne, pour. Après avoir rencontré l'ambassade d'Israël?
Ben du tout, puisqu'elle a continué à faire ses émissions courant janvier. On s'est rencontrés.
Est-ce que c'est la principale cause? Je vous pose la question.
Du oui. tout. Elle n'a pas été évincée. Ils n'ont pas été écartés, ils n'ont pas été sanctionnés, comme je l'entends et comme je le lis un peu partout. Elle a toujours participé sur l'antenne à l'émission L'Actu Autrement. Sauf que, comme je lui ai dit, l'émission sera diffusée le samedi matin.
Oui. oui.
à la place d'une émission phare de l'antenne,
oui.
pour effectivement attendre que l'audience ait lieu sur ce créneau-là. Dans la discussion que j'ai avec elle, en amont, quand on s'est réunis, est-ce que tu peux faire du direct? Non, je ne peux pas. Très bien. Mais à ce moment-là, encore une fois, je vais me répéter, l'auditeur a sa place entière sur Beurre FM, donc je te propose le samedi.
Oui.
Elle a effectivement accédé à ma demande.
Donc la silence radio, juste ici. Aucun contact avec Rosa Méziane, aucun contact.
L'invité se présente. Elle ne prévient pas qu'elle ne vient pas.
Oui.
Aujourd'hui à midi, je l'attendais pour l'émission de demain.
Oui.
Elle n'est pas venue.
D'accord. Bon. Dites-moi, ce sera ma dernière question avant de lancer la pub, Madame Gemma Ketan. Qu'est-ce que vous dites à l'ambassadeur d'Israël s'il nous écoute ce soir?
Ben, je dis à l'ambassadeur d'Israël que c'est un quiproquo. Ce n'est pas, enfin, l'ADN de la station. Ce n'est pas ce qui a été avancé par les médias. Par Marianne ou autre, et surtout que notre antenne est ouverte, qu'il est le bienvenu, comme il l'a toujours été.
Mmh.
Parce qu'il faut savoir que, encore une fois, mais c'est très clair ce que je veux dire là, Beurre FM est précurseur de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage radiophonique, audiovisuel dans sa généralité.
Mmh.
On n'a pas attendu, nous, d'avoir une mode pour, effectivement, employer telle ou telle personne d'origine africaine subsaharienne ou africaine du Nord.
Vous voulez dire la radio
nous,
de la diversité.
On est d'abord dans la compétence. Et croyez-moi, dans, effectivement, ces jeunes issus de l'immigration, qui sont français avant tout, parce qu'ils ont des prénoms et des noms à consonance, effectivement, étrangères, mais ils sont français avant tout, ils sont compétents, et c'est eux qu'on retrouve souvent en première ligne des dossiers les plus importants traités. Aujourd'hui, la radio a formé énormément de stagiaires, de jeunes gens que je vois aujourd'hui ailleurs, oui. sur France 24, sur les radios généralistes. Et c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour nous tous.
Oui.
Beurre FM, c'est d'abord une école de formation. Parce que beaucoup de gens ont fermé la porte à des jeunes qui avaient ces compétences. On en reçoit encore la semaine prochaine. Madame, bonjour, j'arrive pas à trouver de stage dans une radio parce que voilà, parce que voilà. La radio est ouverte à tous ces jeunes qui veulent faire de la radio.
Et de toute confession.
Et de toute confession.
Et de toute origine.
Et bien, c'est toute confession, justement.
Merci. Bravo, madame, merci.
Merci, bah,
merci à vous.
Merci beaucoup.
Et vous êtes applaudis par les débatteurs. Merci, Gemma Kétan, d'être intervenu, d'avoir répondu à nos questions. C'était, je pense, évidemment.
Bah, c'était essentiel. Il fallait
Beurre FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Il est 17h25 précisément. On vous dérange pas, messieurs, ça va, tout va bien, ça va. Allez, si vous venez de nous retrouver, sachez le 17h25 dans le grand déballage avec les invités et les influenceurs, les débatteurs qui vont confronter leur point de vue sur trois sujets d'actualité. Abdeslam Itaj, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Très très bien.
Tout va bien pour vous?
Ouais, c'est parfait, je suis en vacances et je suis à l'écriture d'un livre.
Comment ça, vous
êtes en vacances? J'espère que tu auras l'occasion de m'inviter.
Ah, vous êtes en vacances pour rédiger un livre?
Non, en fait, c'est mes congés de 2020 où je les prenais ou je les perdais.
Vous êtes sérieux?
Donc j'en ai profité pour commencer un ouvrage.
Eh ben, bon, voilà. Bah, écoutez, bonne écriture. Hein.
Merci, bah, j'espère que tu m'inviteras pour en parler. Bah, de l'histoire de mon père.
L'histoire du père?
Ouais.
Bon, ça nous intéresse, bien sûr, vous serez invité.
Bah, volontiers.
Ah, évidemment, c'est normal. Aklim Melouli, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Très bien.
Bon,
bonjour à
bien.
Nos auditrices et auditeurs.
Bah, écoute, ouais, c'est clair. Hein. Et enfin, à vos côtés, c'est Karim Alouache. Bonjour Karim Alouache. Comment ça va?
Ça va.
Tout va bien à la forme?
Ben ça va, je suis très heureux d'être là. J'aurais pu ne pas être là aujourd'hui. Donc,
heureux. Partagez, sachez-le messieurs, partagez. Vous savez, alors on a entendu la diatrice générale, Gemma Kétan, parler de cet article malheureux concernant donc Marianne et les deux animateurs, Rosa Méziane et Malik Yetou. Tout d'abord, quel est votre premier point de vue? Comment vous avez vécu, d'accord, cet article à Climélie? Franchement, là, disons les choses clairement, avant d'entamer la question, évidemment, de l'ADN de notre radio, qui est portée à la fois par nos auditeurs partout en France. D'ailleurs, les auditeurs peuvent réagir.
Oui,
j'y tiens, au 01 53 48 3000. Ils peuvent s'exprimer de façon très libre et dire, voilà, depuis 30 ans, l'ADN et les valeurs qui sont incarnées par cette radio. Alors, à Climélie.
Moi, déjà, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, tiens, voilà que ça recommence. À chaque fois que, effectivement,
des gens
s'expriment différemment, on a l'impression que c'est du complotisme ou de l'islamo-gauchisme, enfin, des termes qu'on invente pour essayer de stigmatiser ou de discriminer.
Ouais.
Après, dans le fond, quand j'ai lu, et comme je connais le fonctionnement de la radio pour des fois faire des émissions, à la télé aussi, donc je le dis, tout le monde le sait, donc je ne vais pas le cacher, eh ben, ici, il faut donner un synopsis, il faut dire ce qu'on fait, avec qui, et parce qu'il y a une éditoriale. Et donc moi, je juge pas du fond, mais sur la forme éditoriale, la ligne éditoriale, elle est faite en réunion, comme tu le fais toi et comme d'autres le font. Et moi, j'ai toujours entendu dans cette radio, parce que je vais prendre une phrase de Karim Bouamran, qui est maire de Saint-Ouen, qui m'a dit, à qui tu te rappelles, on a posé la moquette à Beurre FM.
Ouais.
Parce que nous, on était là depuis le début, donc on a
en
rigolant, disait ça. Et donc, si tu veux, dans ce débat, je me suis dit, tiens, elle veut... pourquoi elle fait, enfin, c'est quoi son but à elle? Parce que derrière tout ça, quand on fait des choses comme ça, quel est le but? Moi, je le connais pas. Mais en tous les cas, sur la forme, je me suis dit, c'est bizarre, parce que, effectivement, c'est des journalistes qui sont envoyés. Et je finis. Et si tu veux faire le travail correctement, si tu veux inviter les gens, moi, à ma connaissance, je le dis très aisément, j'ai pas entendu le roi des Maroc faire une conférence de presse pour expliquer la position du Maroc.
Bien sûr.
Non, mais je le dis, ça a été annoncé par un tweet de Trump, de façon unilatérale, qui a eu une levée de bouclier, et qui concerne, d'ailleurs, si on veut le faire un vrai débat, qui concerne trois pays, donc un territoire qui est celui du Sahara occidental, alors ce qu'on disait, ou d'autres ne le reconnaissent pas, ça c'est, moi je rentre pas dans le débat du fond, je parle de ce truc, et l'ONU. Il faudra inviter l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur du Maroc, un représentant de l'ONU, l'ambassadeur des États-Unis, parce que c'est quand même ça, et un représentant du Front Polisario. Si on veut avoir un débat, puisqu'ils sont concernés dans ce sujet. En matière de géopolitique, donc, on voit bien que si on veut traiter un sujet de façon journalistique et de façon intègre, cohérente et d'informer les gens,
c'est complexe.
Et donc, il y a besoin, comme l'a dit la directrice, de gens qui connaissent le sujet. On ne peut pas aller faire de la pub autour de quelqu'un ou s'aligner de trucs. Le journaliste, ce n'est pas un fan club. C'est un travail d'information des gens qui nous écoutent. Et si on veut, au contraire, mettre de l'huile sur le feu, on procède comme ça. Et moi, je crois que si on veut apaiser, si on veut aller vers des relations apaisées entre les différentes populations, on commence déjà par essayer de mettre toutes les personnes autour de la table et d'avoir un dialogue.
Allez, un tour de table. Justement, d'autres opinions m'intéressent et m'interpellent. Karim Alouache, vous-même, alors qu'en avez-vous pensé justement de cet article?
Bah, écoute, d'abord, on connaît tous la tendance de Marianne, donc leur article et la manière de procéder ne m'étonne guère.
Vous voulez dire quoi? L'article partisan?
On sait surtout que Marianne adore attiser la haine entre juifs, arabes, Et ça, c'est même de pire en pire. On voit la déviance de Marianne plutôt vers les bords extrêmes, plutôt à droite qu'ailleurs. Ça, c'est une chose.
Oui.
Moi, ce qui me met en colère, c'est que, à ma connaissance, Rosa Méziane n'est pas journaliste et que quand on travaille dans une radio, comme dans un média, comme dans une banque, comme dans une compagnie d'assurance, comme dans une industrie, on a des règles à respecter. Et que lorsque l'on prend la parole pour une marque, ben, on en demande l'autorisation. Ça, c'est, ça, je dirais, elle est extrêmement condamnable sur la forme. Je veux dire, en plus, je découvre que la directrice de la radio lui avait demandé, lui demande des informations et de respecter les règles.
Oui.
Donc, pour moi, on débattra pas sur le fond, mais sur la forme. La deuxième chose, c'est pas parce qu'on passe un peu sur quelques chaînes de radio, sur des débats, qu'on devient des stars. Je veux dire, ça, c'est aussi un vrai sujet aujourd'hui. À quoi sont prêts les gens pour passer, pour être médiatisés? On l'a vu avec avec les médecins qui allaient quand même sur les plateaux de télé pour dire que le masque n'était pas quelque chose d'utile et d'intéressant et qui nous protégeait. Alors qu'on sait tous que le minimum de l'hygiène, c'est de porter un masque. La troisième chose à dire, et c'est ce qui me met en colère, on n'a pas besoin de ça pour attiser la haine ou importer en France des problématiques internationales. On en a assez de ça. Et je suis désolé que Rose porte encore ce genre de sujet qu'on attend d'ailleurs en réalité. Moi, je suis étonné que ça vienne de sa part. Et je trouve que la directrice est extrêmement tolérante parce que dans de nombreuses sociétés, pour le non-respect des règles, vous seriez dehors aujourd'hui.
Bah, Canal+ a donné un peu le ton, non?
Oui.
Me semble-t-il, vous avez suivi les affaires.
Non, mais le sujet, il n'est pas sur le fond.
Canal+, ils ont été sans scrupules, me semble-t-il.
Non, mais Adil, aujourd'hui, la technique, c'est tu dis n'importe quoi, t'envoies une bombe, et puis ça y est, tout le monde est autour de toi, et puis elle est contente. C'est pas ça.
Alors,
le métier de journaliste, c'est un métier sérieux, je pense. En tout cas.
17h31, on va ouvrir l'antenne, d'abord dans une poignée de minutes au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert partout en France. Vous pouvez réagir et évidemment donner votre point de vue. Je donnerai la parole à Abdeslam Itach. Nous allons accueillir Bruno Laforesterie avec son ouvrage H, la honte de la République. Bonjour mon cher Bruno Laforesterie.
Bonjour cher Adil.
Comment ça va?
Écoutez, vous devez entendre derrière moi un peu de bruit, parce que j'avais prévu qu'on soit vers 17h, mais là je suis en déplacement, donc je vous entends et je peux vous répondre quelques minutes.
Alors, prêt à, évidemment, quelques minutes, je tenais absolument à parler de votre ouvrage, parce que vous savez, régulièrement, on a abordé la question, vous savez, du H, la honte de la République, évidemment, et votre nom. Comment est émergée cette idée de faire pondre ce livre autour de la question, vous savez, de ce spectre qui hante la France, le cannabis?
Alors, c'est vrai que moi, je travaille sur ces sujets chez jeunesse et notamment de quartier depuis une vingtaine d'années, hein, au travers d'une expérience professionnelle d'abord et personnelle. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, et notamment dans le rap, la question du cannabis était passée d'un sujet un peu récréatif, on fume pas, à un sujet industriel où la plupart des artistes, beaucoup d'artistes parlent de ça au long et en large de leurs morceaux, qui est révélateur des situations dans les quartiers, évidemment qu'on connaît. Deuxième élément, j'ai aussi eu la chance de pouvoir voyager à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, et me rendre compte que ce sujet était dépassé. Et le croisement des deux, quand on rentre dans cette thématique, on se rend compte à quel point la situation est dégradée et l'impact sur la jeunesse est fort, on se rend compte que le sujet en France est totalement mésestimé, méconnu, et mis sous le tapis. Et effectivement, c'est un enjeu extrêmement important qui n'est pas du tout traité à la bonne hauteur.
Alors, traité à la bonne hauteur, est-ce que c'est aux auditions, d'ailleurs, je le rappelle, la thèse, mais Bruno Laforesterie, finalement, vous savez, c'est un sujet récurrent, c'est un sujet qui revient et en permanence, hein, y compris au sein de l'hémicycle, l'Assemblée nationale. Pourquoi ça prend pas forme? Pourquoi c'est un sujet qui dérange, qui se transforme parfois jusqu'à être tabou auprès des politiques?
En fait, historiquement, c'est vrai que c'est un sujet qui est revenu. Il y a l'appel du 18 juin historique depuis très longtemps qui parlait de la légalisation. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte, en fait, qu'on avait un traitement binaire, oui ou non, et on voulait répondre à une question ultra complexe et sociétale, politique et sociale par un sujet, est-ce qu'il faut légaliser ou pas?
Oui.
Je pense que pendant très longtemps, il y a eu un affrontement binaire.
Oui.
Là, on se rend compte depuis quelques mois que ce sujet a totalement dépassé le champ politique pour attaquer un champ social de terrain et qui croise maintenant l'ensemble des partis. Et quand vous voyez que c'est Robin Reda, des Républicains, qui parle avec une Verte, qui parle avec un socialiste, qui parle avec des LREM, aujourd'hui, le sujet, maintenant, c'est en quelque sorte une forme d'analyse un peu transpartisane. Et là, c'est une nouvelle étape qui fait que les gens qui étaient très éloignés de ce sujet, aujourd'hui, le prennent à bras-le-corps au même titre qu'un problème de santé publique. Et c'est vrai que c'est totalement nouveau. Et l'approche maintenant, elle est très objectivée, économique, sociétale et sociale, parce qu'on a un recul par rapport à ce qui se passe au Canada. Et on est dans une nouvelle sphère de cette analyse. C'est pour ça que j'ai pris la plume, pour dire que ce sujet devait être donné comme priorité la jeunesse.
Est-ce que...
Le seul sujet, c'est la jeunesse.
Bruno Laforestier, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, ce que vous parlez de jeunesse, est-ce qu'il y a une urgence ?
Il y a une urgence à plusieurs niveaux, parce qu'en fait, avoir laissé pourrir une situation, l'Hydre a totalement dépassé le style imaginable, et notamment dans les quartiers, la violence, l'impact sur la jeunesse est totalement aujourd'hui inarrêtable à l'heure où on parle.
Oui.
Et que la question du trafic est centrale, c'est plus de 3 milliards d'euros, et on le sait très bien que ceci est mésestimé, et si on laisse ça comme ça, la situation va devenir incontrôlable. Et tout le monde aujourd'hui se rend compte, et que c'est un enjeu de société majeur qui touche les jeunes, et les jeunes de partout aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'actuellement, cette prise de conscience, elle est totale, et je pense que l'opinion publique aussi a bien compris que ce n'était pas un sujet entre guillemets binaire, en disant la question de la légalisation est une question pour les fumeurs, et les autres, non, c'est une question de santé publique, et aujourd'hui, la santé publique a pris le dessus. Et je crois que les Français ont compris l'urgence et qu'ils sont mûrs aussi sur cette thématique.
Qu'est-ce que vous préconisez finalement quand on lit attentivement, parce que vous dites que le cannabis tue, vous dites que... Moi j'ai lu un très... Il y a plein de passages d'ailleurs, que la banalité du flingue, un truc qui m'a interpellé aussi, votre conclusion sur le fait que les quartiers ne se résument pas au deal, au terrorisme et à la prostitution. C'est vrai, il y a beaucoup de... Franchement, j'invite nos auditeurs à aller se le procurer, parce qu'il est vachement bien ficelé et il raconte bien. Qu'est-ce que vous préconisez, Bruno Laforestier?
Moi, ce que je dis, je suis pas un fanat de la légalisation pour la légalisation. Je dis qu'il faut poser la question de la légalisation sur certains usages pour certains publics, ça ne va pas être entamé. Et je dis qu'on doit entamer une transition cannabistique, ou ainsi que la transition écologique dans d'autres domaines, qui va prendre 5 ans, voire plus en France, et qui va reposer tous les fondements, à la fois de la question de la politique de la ville, on voit qu'il y a aujourd'hui des décisions, de la question du traitement de la jeunesse, de la question du traitement des discriminations, de la question du traitement de la police. Et qu'en fait, si on se met comme priorité la jeunesse et qu'on prend l'angle sur cet angle du cannabis, effectivement, il y a des solutions, mais ça demande effectivement à le traiter de manière globale. Donc je suis pour dire, on traite le sujet de manière sérieuse, de manière globale, et on pose sans tabou toutes les questions. Il faut être très ferme sur les mineurs, mais il faut se poser la question aussi du cannabis récréatif et sur les majeurs vaccinés qui savent exactement ce qu'ils font. Voilà, donc je suis pour attaquer sans tabou, mais surtout prendre l'urgence du sujet et surtout de traiter de manière hyper professionnelle.
Qu'est-ce que vous dites à notre jeunesse des quartiers populaires qui vous écoute partout en France, Bruno Laforestier?
Moi, je leur dis, et j'en connais beaucoup, ils le connaissent pour certains, que le mythe de l'argent facile, c'est un mythe. Aujourd'hui, gagner quelques centaines ou milliers d'euros en bas d'une tour, certes, ça peut se dépanner, mais c'est pas un projet d'avenir. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se considérer que c'est pas en gâchant sa vie à 15 ans qu'on va faire une vie heureuse à 25 ou à 30 ans. Donc c'est effectivement de raconter qu'effectivement, aujourd'hui, les cordes de rappel, on doit les trouver, et surtout les maximum des trafiquants. Puis de toute façon, l'argent ne reste pas dans le quartier, l'argent s'évapore.
Ouais.
20 ou 25% reste pour payer des trucs améliorés, mais l'ensemble de ça part à l'étranger, dans des paradis fiscaux, et c'est pas ça qui fait société, et ça, c'est cette prise de conscience.
Ouais.
Que c'est ce que je dis auprès des jeunes.
Merci.
Je sais que leur vie est dure aussi et que ce n'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent à court terme qui ensuite conduit à des drames absolus familiaux.
Merci infiniment. Vous êtes entrepreneur culturel, vous êtes le patron de Radio Move à Radio France, cofondateur de la Radio Génération, vous êtes spécialiste de la jeunesse et des questions relatives aux quartiers populaires. Merci infiniment Bruno Laforestier d'avoir été avec nous pour votre ouvrage qui s'intitule H, la honte de la République. Bon voyage et merci beaucoup Bruno.
Merci, entre deux. Au revoir.
À très bientôt, au revoir, 17h37, 38 même précisément. On marque une courte pause et je donne la parole évidemment à nos influenceurs débatteurs pour continuer sur l'article qui fait référence à Beurre FM. A tout de suite, ne bougez pas.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
43 précisément, messieurs, avec Akli Melouli, avec Karim Alouache et enfin avec Abdeslam Itash.
Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Allez, je redistribue la parole justement sur la question de ce papier, de cet article de Marianne qui a rédigé donc un article concernant évidemment l'hostilité qui a été déclenchée par deux animateurs et puis aussi cette rencontre avec l'ambassadeur d'Israël reprochée par la direction, évidemment, c'est comme ça que le présente l'article de Marianne. Vous avez entendu tout à l'heure la directrice générale Gemma Ketan s'exprimer sur les ondes et dans le grand déballage pour expliquer évidemment les faits. 01 53 48 3000, vous pouvez intervenir, nous appeler, je vous attends tout de suite pour nous raconter un petit peu comment vous vivez, vous, l'antenne de Beurre FM. Est-ce que vous trouvez qu'elle en fait pas suffisamment sur le le partage des dialogues. Est-ce que aujourd'hui c'est pas son, est-ce que c'est son ADN? Est-ce que elle porte bien à la fois les dialogues, mais elle porte bien aussi également, vous savez, cette volonté de tisser des passerelles, mais également aussi la radio tout simplement de la diversité. 01 53 48 3000. Abdeslam Itache, vous a pas entendu, je vous donne la parole.
Oui. En fait, bon, tout d'abord, moi, je tenais à remercier Beurre FM de nous prêter l'antenne et de nous permettre justement de pouvoir nous exprimer. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais reçu de consignes ou d'ordre ou remarques de la part de Beurre FM sur cette liberté de parole. Et ça, je tenais à remercier Beurre FM. Mais comme beaucoup ont été génération Mitterrand, et j'en ai honte, puisque quand on connaît l'histoire de Mitterrand, on peut se cacher à l'ami de Bousquet et les drames qu'il a commis en Algérie. Moi, je peux dire que je suis de la génération Beurre FM, oui. Génération Radio Beurre et Beurre FM. Et à défaut d'avoir fait les moquettes ici à Beurre FM, j'ai grandi avec cette radio et je préférais l'école déjà.
Fidèle auditeur.
Absolument. Et j'ai grandi avec cette radio. Ensuite, moi, savez, je vais vous dire les choses. J'ai pour amis Malik Yetou et Rosa Méziane. Oui. Je n'ai pas pour habitude de renoncer à mes amitiés. Oui. Ça m'a coûté une écharpe puisque j'avais à l'époque refusé de voter contre le retrait d'écharpe d'un de mes amis Michael Drin. Oui. Ça m'a coûté mon écharpe. J'ai pas pour honte et j'ai beaucoup de fierté à dire qui sont mes amis. Moi, je trouve que c'est quelque chose de regrettable et que la question qu'il faille se poser, c'est à qui profite le crime. Ouais. Eh ben, ça profite à des journaux qui dégomment, comme Marianne, ouais, juste pour vendre du papier, pour vendre des clics, des liens partagés sur Internet. Et moi, je trouve ça vraiment fâcheux que ça soit arrivé jusqu'à ce stade-là. J'ai eu l'occasion, moi, de faire plusieurs plateaux radio avec Rosa Méziane, Maliki et tout. Nous n'avons pas toujours été d'accord sur les sujets, mais on a toujours cette courtoisie républicaine d'échanger, de croiser le fer quand on peut le faire. Et c'est vraiment très regrettable tout ça.
Alors, j'attends les auditeurs 01 53 48 3000 justement pour venir nous donner leur point de vue partout en France sur le fait que voilà aujourd'hui comment vous vivez cette radio-là, comment vous la vivez, est-ce qu'elle est en phase avec l'interreligieux, en phase avec le dialogue. Je vais faire un tour de table, franchement. 30 ans d'une histoire finalement qui a une ADN et des valeurs. Comment vous le percevez, vous, Akli Mellouli?
Moi, je le perçois, c'est difficile, parce que ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que du coup, on veut accuser cette radio de la rage, alors que c'est pas le cas. Moi, je me prononce pas sur le fond, parce qu'à la rigueur, j'ai pas les tenants et les aboutissants, et je connais pas les... Après, chacun assumera, et à l'avenir, de toute façon, l'histoire, vous savez, l'histoire, c'est un vrai révélateur. Oui. Y a pas de mensonge. À un moment, tout remonte à la surface, oui, et on voit qui est qui, et on peut raconter l'histoire qu'on veut, la réalité, elle arrive toujours à point. C'est ce que je dis toujours, le temps est l'ami du juste. Oui. Donc moi, ce que je vois par contre, c'est que comment on embarque une radio, comme ça, sans donner tenants aboutissants, parce que c'est des animateurs, ils n'avaient pas à y aller, et Karim l'a si bien dit, dans n'importe quel truc, moi en tant qu'élu, parce que il s'agit pas de solidaire à tel et tel, il y a un programme municipal, il y a une ligne politique, il y a un bureau. Oui. Si j'agis hors les orientations du bureau, je peux ne pas être d'accord à l'intérieur.
Bien sûr.
Si je suis d'accord, je peux quitter si je veux pas. Mais tant que je reste, je dois appliquer ce qui a été décidé. C'est le cas dans une entreprise. C'est le cas dans une radio qui est une entreprise. Donc on peut raconter les histoires qu'on veut, mais la réalité, elle est celle-là.
Oui.
À un moment donné, ils sont dans une entreprise, il y a une éditoriale, cette ligne, elle doit être validée. Comme dans une semaine, il y a des lignes politiques.
Ouais, ouais.
Et à partir du moment où on n'est pas d'accord, soit on quitte et autre truc, mais si on reste, c'est qu'on est d'accord, et donc on porte le message.
Mais est-ce que vous trouvez que la radio a toujours été, en tout cas, en phase avec son ADN, et notamment sur le vivre ensemble, sur la question, vous savez quoi,
Adil,
surtout du dialogue.
On a été précurseur, cette radio a été précurseur, on l'a dit, moi j'ai écouté tout le monde, ça a été repris là, par tout le monde. Effectivement, personne ne nous a dit ce qu'il fallait dire dans cette radio. C'est la libre expression. Chacun est responsable de son expression. Il l'assume. Et ça, je trouve que c'est l'ADN de Beurre FM. Et vous avez dit, Beurre FM a toujours été innovant. Elle a toujours été en amont. Et cette radio, beaucoup de gens l'écoutent. Beaucoup de gens se sont apaisés. J'ai jamais entendu de message de haine ou de prosélytisme haineux, agressif ou divergent. Moi, dans les couloirs de cette radio, j'ai jamais entendu de propos
agressant telle ou telle communauté, telle ou telle personne par rapport à ça. Je crois qu'on peut avoir des désaccords, c'est ce qui a été dit. Tu sais, on peut avoir des accords, on ne peut pas être d'accord, et tant mieux, c'est la vie, mais les gens doivent se respecter et doivent travailler. C'est le vivre ensemble, ça.
Ouais.
Et cette radio, elle a contribué, et elle a contribué à faire en sorte que des milliers de générations puissent écouter, entendre des gens qui parlent d'eux, de leur culture, parce que c'est pas le cas dans tous les médias. On parle pas de tous les gens dans tous les médias. L'entre-soi, comme le disait Karim, eh ben, dans certaines émissions, on voit bien que l'entre-soi intellectuel, il est pas ouvert à tout le monde.
Ouais. Karim Alouache.
Moi, si je peux m'exprimer.
Bien sûr.
Tu as dit à qui profite. Moi, je vais dire à qui ça nuit. Ça nuit tout d'abord à l'ambassade d'Israël et ça nuit aussi à la communauté marocaine et à la communauté juive de France. Donc, Rose et Malik, en allant attiser ce vent de haine qui en réalité n'existe pas. Il y a des gens qui ont le don d'importer les conflits internationaux en France et les ramener dans la proximité. Moi, ce que je vois sur cette radio, c'est qu'il y a une liberté d'expression totale. Je connaissais la télé-réalité, je suis en train de découvrir avec ces deux personnes la radio-réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on y va, on fait un petit buzz, on fait un petit bruit, on va attiser vraiment, parce que moi je le dis, hein, ça nuit aux deux communautés, ça. C'est le seul effet que ça a.
Ouais.
Et puis ça arrange l'extrême droite. Alors peut-être qu'ils ont décidé, vous savez, j'ai cru lire que M. Yétou était passé du PS à LR, et ben après il n'y a plus qu'un bras pour aller de LR à RN. Mais qu'il le fasse et qu'il l'assume, comme certains qu'on voit sur les plateaux de télé, voilà. Moi, je pense que être journaliste, c'est un job sérieux. Ça nécessite une formation, ça nécessite d'avoir des diplômes. Et je comprends tout à fait qu'une directrice de chaîne de radio indique que pour aller sur certains rendez-vous et pour porter la marque à l'extérieur, il faut avoir cette compétence, et cette compétence se justifie par un vrai statut. Maintenant, par mépris, je ne sais pas, ou par envie qu'on fasse le buzz et qu'on en parle, et je trouve que même à la limite qu'on en parle trop, aller jusqu'à ne pas se présenter pour une émission ou autre et puis dire j'ai été viré derrière, vous savez, je connais beaucoup d'endroits où elle serait tout simplement virée, et puis et non pas parce qu'elle a fait tel ou tel rendez-vous, parce que tout simplement elle a commis une faute professionnelle. Elle n'est pas directrice de la radio.
Ouais.
Elle n'est pas journaliste à ma connaissance. Si je me trompe. Maintenant, si elle a envie de faire le buzz et de se faire remarquer, ben, qu'elle le fasse par des actes positifs de réconciliation, de rassemblement. D'autant plus qu'en ce moment, dans cette situation, je dirais, de crise sanitaire,
ouais,
où on est tous angoissés, on est tous anxieux, les enfants n'en peuvent plus. Enfin, c'est la guerre. C'est la guerre, ce moment. On n'avait pas besoin de ce sujet-là.
On n'avait pas besoin de ce sujet. Allez, moi, je laisserai les auditeurs s'exprimer. Nous allons marquer. C'est l'heure de la pause. Tout de suite, maintenant, dans 3 minutes. Bon, ce que je vous propose tout de suite, c'est évidemment d'ouvrir l'antenne au 0153-48-3000. 0153-48-3000. Messieurs, vous avez suivi le rapport Benjamin Stora ou pas du tout? Est-ce que vous l'avez suivi? Oui. Eh bien, on va en parler. Alors, justement, parlons-en justement. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a toute une série d'intellectuels, des Algériens qui, eux, des intellectuels, des artistes et des écrivains, qui ont saisi, en tout cas, cette question concernant le rapport Benjamin Stora, qui fait débat. Et tant mieux s'il fait débat. Il faut qu'il fasse débat. Et raison, raconte un peu la manière. Alors, justement, le rapport Benjamin concernant la colonisation. La France restitue, d'accord, je ne vous l'apprends pas, elle a restitué 24 crânes à l'Algérie. Mais la réconciliation est encore loin. Pourquoi elle peine? Pourquoi on a du mal à avancer avec cette réconciliation? Et pourtant, la proposition phare est celle de la création d'une commission mémoire et vérité présidée par l'historien, lui-même, Benjamin Stora. Et il faudrait aujourd'hui, évidemment, qu'on revienne sur ces questions qui, aujourd'hui, d'accord, fâchent Akli Mellouli.
Oui, moi je trouve qu'effectivement, bon déjà, présidé lui-même, je pense que, d'ailleurs ce rapport il est minimaliste, il est réducteur, parce qu'il se résume qu'à la période 52-64.
Ouais.
Donc il occulte quand même la période de la conquête qui a été quand même d'une brutalité extrême, on l'oublie. De Sidi Foudjah Blida, c'est 35 km, par exemple, les Français ils ont mis 7 ans.
Ouais.
Car à chaque village, vous le savez, il se heurtait à une résistance farouche. Et résistance de qui? Des paysans qui luttaient contre l'envahisseur.
Oui.
Donc le peuple algérien n'a pas commencé à se révolter, même s'il faut une statue par le biais de l'émir Abdelkader.
Oui.
Sa révolte, elle date de ce moment-là, des paysans. Et donc s'il fallait une statue déjà, par exemple, il faudrait une statue aux paysans algériens anonymes qui a combattu.
Oui.
Ensuite, Stora, il occulte quand même les...
Pourtant, il est bon, Stora, il est...
Oui, oui, mais j'enlève rien, moi j'enlève rien, je parle de son rapport. Moi, je parle pas de Benjamin, qui, du travail qu'il fait. Ouais. On aime beaucoup, mais c'est pas le fait. Mais donc, il occulte les massacres de la conquête, les enfumades, les décapitations, les viols, la rapine, la séquestration des terres, parce que tout ça, on l'oublie, on n'est que dans la guerre d'Algérie. Et Stora aussi, parmi les crimes les plus criants quand même, les viols, les crevettes bijards, vous vous en souvenez, c'est les gens... qu'on avait utilisé dans l'Indochine, où on prenait des gens...
Mais là, il était question, avec Limonini, pardonnez-moi, des questions mémorielles entre la France et son ancienne colonie.
Oui, mais dans les questions mémorielles, il faut en parler. Les premiers, les
Benjamin
déportés...
Benjamin Stora, il ne fait que rendre public, si vous voulez, ce rapport, qui était simplement, si vous voulez, commandé par le
château. Non, mais j'ai bien compris. Mais quand on veut faire un rapport, on prend toute l'histoire. On oublie la révolte de Cheikh El Mokhalali, il est déporté, puisque l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, tout ça, il faut le mettre dans un truc. Et puis, ce qui aurait été bien, c'est qu'effectivement, dans les Occitaniens, même présidé, par quelqu'un qui n'est pas d'attache avec l'Algérie.
Ouais.
Ce qui permet de ne pas avoir de...
Il est historien reconnu et connu.
Non, mais ça n'enlève rien. Vous me parlez d'un rapport. Est-ce qu'on parle de la personne ou du rapport? Parce que moi, je parle du rapport.
Ouais.
Pour moi, le rapport est minimaliste et réducteur, parce que je vous dis, il s'appuie sur ces périodes-là.
Ouais.
Maintenant, si on veut effectivement avoir un travail plus soutenu, il faut effectivement un collectif d'historiens ouvert à ce deuil qui travaille là-dessus.
On est à l'approche, je ne vous l'apprends pas, pardonnez-moi, on va faire une pause pub, à l'approche du 60e anniversaire, vous savez quoi, de la fin de la guerre d'Algérie en 2022. Donc il va falloir qu'on en parle. Est-ce que la France veut s'excuser? Est-ce que la France veut se repentir? C'est la question que je pose. Elle est extrêmement importante. Mais... D'ailleurs, le rapport, messieurs, je marque juste la pause pub et on se retrouve tout de suite après. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beur FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Et le grand déballage, 17h58, si vous venez de nous rejoindre, sachez-le. Le grand déballage, c'est en direct, 01 53 48 3000. J'attends votre intervention partout en France. Vous pouvez intervenir sur l'antenne au 01 53 48 3000 pour parler du rapport Benjamin Stora, vous savez, qui a remis au président, exactement, au président français Emmanuel Macron, un rapport qui contient 150 pages, messieurs,
ouais,
pour tenter de réconcilier tout simplement les mémoires entre les deux pays. Alors, est-ce qu'on peut parler de réconciliation? Un sujet hautement sensible.
Alors, Adil, pour finir, puisque tu m'as donné la parole, je vais te dire d'abord, un rapport, c'est fait pour quoi? C'est fait pour effectivement être objectif et refléter les réalités. T'es d'accord?
Ouais.
Donc effectivement, parce que je m'étais noté des choses, c'est pas fait pour faire plaisir à l'un ou l'autre. D'accord? Et surtout, quand il s'agit d'impacter des relations bilatérales. Parce que là, le but, au-delà du rapport, c'est de réimpacter les relations bilatérales. Donc il faut une impulsion. Tout à l'heure, tu disais, et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, même les historiens français, Adil, Olivier Lecourt-Grandmaison, Henri Pouillot, trouvent effectivement qu'ils sont déçus par ce rapport.
Oui.
Mais à la rigueur, je sais que je connais pas la commande, c'est pour ça que je connais le personnage. Et puis tout à l'heure, tu parlais des crânes qui ont été restitués.
Oui.
Tu sais pourquoi ils ont été restitués? Parce qu'un historien algérien est tombé par hasard sur une pièce de crâne.
Oui.
Mais personne n'avait entendu parler avant.
Oui.
Et donc il a mis en lumière ça, il a mis une pétition, il a mis un enjeu. Donc du coup, la France s'est sentie obligée de reconnaître. Mais
donc sous la pression.
Voilà, c'est ça. Et donc on est toujours aujourd'hui, si on veut, Adil, regarde ce qu'a fait l'Allemagne. On parle d'excuses et tout ça. Les Allemands qui ont été rasés, qui ont été martyrisés, se sont excusés. Et ils ont reconnu les choses.
Alors,
parce que les excuses, c'est pas de se flageller, Adil. C'est de dire qu'effectivement, dans une période, il y a des choses qui ont été faites, qui n'auraient pas dû être faites. C'est reconnaître la dignité humaine. Parce que quand même, derrière tout ça, il y a des milliers de morts et de choses.
Il y a quand même, il faut ouvrir peut-être la voie à cette reconnaissance des souffrances causées
tout
par la colonisation.
D'accord.
Entre la guerre d'Algérie, évidemment, et la colonisation. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, il doit y avoir des excuses, l'idée qui émerge d'excuses ou pas? D'ailleurs, vous savez que le dessinateur...
Mais l'Allemagne s'est excusée, elle s'est excusée
d'ailleurs, le dessinateur algérien Dilem, qui est connu,
ouais,
il a livré un regard qui était assez sarcastique sur ce sujet ultra sensible.
Ouais.
Oui.
Mais Adil, l'Allemagne vient encore de s'excuser, elle s'est excusée avec la France, elle vient de s'excuser avec la Pologne. Est-ce que ça l'a grandi? Parce que les excuses, c'est pas se flageller, ou c'est de dire qu'à une période, on est sur des valeurs, on a eu tort.
Ouais.
Aujourd'hui, je vois que, par exemple, regardez, le cas de Gisèle Halimi au Panthéon.
Ouais.
J'ai vu que les filles, femmes et filles de Harki s'opposent à ce qu'elle rentre au Panthéon.
Oui.
Mais au-delà de... Parce qu'elle était avocate du FLN.
Oui.
Mais Gisèle Halimi, c'est quand même une grande femme. Elle mérite sa place au Panthéon.
Oui.
On n'est pas parce qu'on l'aime ou on l'aime pas.
Oui.
La question, c'est de savoir si elle a apporté à l'humanité, qu'est-ce qu'elle a apporté dans son combat. Le problème qu'on a, on confond les valeurs et le subjectif du ressenti personnel individuel.
Alors, je vais te faire tourner donc la parole. Karim Alouache, Abdeslam Itach. Finalement, pour dépoussiérer ce dossier qui est rendu explosif, que faut-il faire, Abdeslam Itach, ensuite Karim Alouache?
D'abord, je pense qu'il faut regarder l'histoire dans les yeux, dire toute la vérité, rien que la vérité,
Et vous savez, moi, je suis binational, je suis franco-algérien, et ma part d'algérianité réclame de ma part de francité une reconnaissance des massacres qui ont été perpétrés en Algérie. Je pense évidemment au 17 octobre 61, ici à Paris, mais sous cette période, l'autre 8 mai 45 et bien d'autres moments. La colonisation, comme ça a été dit juste avant par un autre co-débatteur, c'est qu'elle ne date pas de 54-62 ou 54-64, puisqu'il y a eu aussi les essais nucléaires dans le désert algérien après 62.
Oui.
Elle date de beaucoup plus loin. Et tous ces Algériens qui sont morts aujourd'hui, vous savez, l'Algérie est reconnue dans tous les pays du Moyen-Orient. Lorsque vous dites « je suis Algérien », ils vous disent « 1,5 million de martyrs ». « 1,9 million de shuhada ». C'est la phrase qui suit tout le temps. Les gens savent le coût qu'a payé l'Algérie pour son indépendance. Il ne faut pas éluder l'histoire, il faut la regarder dans les yeux. Et si... moi, je pense, si vous voulez mon avis, ouais, la France serait grandie de reconnaître justement ces massacres qui ont été commis en Algérie. Ouais. Et qu'elle puisse regarder la vérité. Vous savez, il y avait un ancien Premier ministre qui parlait des bienfaits de la colonisation. Et moi, je vais vous dire une chose, il n'y a que des malfaits dans la colonisation. Elle a causé des drames. Aujourd'hui, encore des familles vivent avec ces stigmates, avec ces traces. Donc, on doit justement aller beaucoup plus loin. Mais vous savez, sur le rapport Benjamin Stora, certains vous diront qu'il n'a pas été assez loin. C'est un petit peu mon avis. Mais il y en a aussi qui vous diront qu'il a été trop loin. Hein, on a évoqué les femmes marquises, justement, par rapport à cette avocate du FLN, Gisèle Halimi. Ce que je veux dire, c'est que le sujet est passionnant. Et à un moment, je pense qu'il faut dépassionner le débat, regarder l'histoire dans les yeux, et justement pour pouvoir avancer et pour tourner cette page et écrire la nouvelle.
Alors, on va continuer d'en parler. Je vais ouvrir l'antenne, si vous voulez bien, messieurs, 01 53 48 3000. On a Karim de Paris. Bonjour Karim, bonsoir. Karim.
Merci pour l'occasion de
servir. Parlez bien, devant. Parlez bien, Karim, s'il vous plaît, devant votre combiné, parce qu'on vous entend au loin.
Là,
je vous remercie. Non, il faut vraiment parler devant votre combiné, s'il vous plaît.
Oui, je voulais juste vous dire un soutien en fait par rapport à l'histoire avec Marianne, juste pour vous dire que Marianne, vraiment, c'est pas l'exemple. Ils sont mal placés à vous donner des leçons. Donc je pense que si la radio, c'est un journal qui cultive vraiment de la haine et l'islamophobie, etc. Et qui sont des extrêmes, ils sont très loin, donc ça vous donne des leçons. Je pense que votre radio branche parce que elle a une voix qui est forte, elle est écoutée par tout le monde, que ce soit par des Français ou des étrangers, ou des gens issus de la diversité. Donc vraiment, je voulais vous apporter votre soutien.
Bah, écoutez, merci.
On va continuer à vous écouter en tout cas. Et si ça les dérange, les anciens organisaient vraiment un vrai débat. On avait tant comme l'a dit votre collègue, tant Israël, les gens de Polisario, etc. Des vrais débats qu'on
fait. Oui.
Donc je suis vraiment très clair, voilà, de vous écouter.
Ben écoutez, merci en tout cas. Effectivement, un message comme ça, c'est aussi important et c'est aussi un message d'un auditeur. Karim, merci en tout cas pour votre appel.
Et tu peux en rajouter quelque chose pour aller.
Oui, bien sûr, je vous en prie. Oui, bien sûr, je vous en prie, Karim.
Pour l'Algérie, donc, mon point de vue, en fait, je pense que leur rapport, il n'apporte pas grand-chose pour régler cette histoire parce qu'il faut vraiment reconnaître ce qui s'est passé en Algérie, les massacres, etc. Après, il faut faire des propositions de réparation pour réparer ce qui a été fait, pour y aller avancer vers la réconciliation avec l'Algérie. En fait, ce rapport propose des miettes pour l'Algérie en contrepartie pour qu'elle reconnaisse, donc qu'elle laisse entrer des milliers et des milliers de Haïtiens, donc qui ont vraiment trahi l'Algérie. Donc, je dirais que c'est des miettes pour l'Algérie. Et vraiment, ce rapport, je pense que c'est indigne pour quelqu'un comme j'estime beaucoup comme Benjamin Stora. Il faut vraiment un rapport avec de vraies propositions. Je pense que la fille qui lui a demandé Macron, lui a donné les propositions que Macron souhaite. Voilà, merci beaucoup.
Ben merci Karim, merci d'être intervenu. 01 53 48 3000, on vous attend. Le standard est ouvert, vous réagissez partout en France, évidemment sur la question du rapport Benjamin Stora. Est-ce qu'il faut reconnaître les exactions de la guerre d'Algérie pour apaiser les mémoires? Faut-il des excuses? Et évidemment, on vous attend au 01 53 48 3000. Karim Alouache.
Bah, écoutez,
alors, le rapport sur la réconciliation des mémoires françaises
et
algériennes.
Je l'ai lu, puis on a un peu échangé avec Akli, d'ailleurs, lors d'une visio sur le sujet. Moi, je vais vous dire, je vais reprendre une expression, tout ça pour ça. Je vais pas parler de Stora, je veux parler du rapport, mais il n'y a pas grand chose dedans, en fait, c'est fan. Et moi, je vais vous dire, pour démarrer une nouvelle histoire, il faut mettre fin à une histoire, à l'histoire précédente. Ah. Alors, si dire ouvertement, publiquement ou écrire que la France présente ses excuses au peuple algérien, hein, et que ça met fin à l'ancienne histoire, bah c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que ça permet d'avancer, de passer à autre chose. Ceci étant dit, c'est comme dans un divorce et qu'il y a des enfants. La France et l'Algérie resteront un couple à vie parce qu'ils ont des enfants des deux côtés de la Méditerranée. Je vous rappelle que dans les accords d'Évian, il a été dit que les enfants nés en France après 62 de parents algériens seraient français de droit. Oui, pas français de lieu, français de naissance, de droit. Donc, du coup, c'est comme un couple qui aurait divorcé, ils ont intérêt à bien s'entendre parce qu'ils ont des enfants des deux côtés. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et je trouve d'ailleurs que ces enfants qui ont aujourd'hui l'âge, pour certains qui auront bientôt l'âge des 60 ans de l'indépendance, c'est un peu les laisser pour compte. Souvent, ce sont un peu les laisser pour compte. On n'en tient pas compte. Et je pense qu'ils représentent, comme moi, entre autres, et ceux qui sont sur cette table, un vrai ciment et un vrai lien. Parce que ça, on existe, on est là, on a des enfants, certains ont des petits-enfants, et ça continuera. Et ça, c'est indélébile. Donc, mettre fin en disant je présente mes excuses, comme ça, il n'y a plus de sujet là-dessus. Pour moi, il n'y a pas besoin d'un rapport de 150 pages, c'est réglé en 15 secondes et c'est très facile. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs l'Allemagne, par un acte.
Il faut toujours regarder à côté ce qui est fait.
Quand on va en Algérie, faut être honnête, il y a une adoration, il y a une adoration de la France, et c'est indélébile. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas une grande partie des Algériens qui ont un peu de pouvoir en Algérie, qui n'auraient pas la double nationalité. Donc, soyons honnêtes avec ça. Hein,
justement, Akhil Mellouli, avant de vous donner la parole, pour Emmanuel Macron, la colonisation et la guerre d'Algérie sont des secrets de famille qui rongent la société française. Il y a un an, il faisait cette déclaration, il déclarait « Je suis très lucide sur les défis mémoriels qui sont devant moi. La guerre d'Algérie est sans doute le plus dramatique d'entre eux. » Alors, comment on peut envisager justement cette difficile tâche de réconciliation mémorielle ? Messieurs, c'est une vraie question.
Oui, mais déjà, à minima, comme le disaient les autres, c'est effectivement de reconnaître de façon sincère les crimes coloniaux. Il faut les reconnaître déjà à minima, c'est au moins ça, de reconnaître de façon sincère les crimes coloniaux. Mais Adil, il faut quand même réfléchir aussi, parce qu'à l'époque, la réconciliation Paris-Berlin s'est faite sur la construction de l'Europe.
Oui,
ne l'oublions
vrai,
pas.
C'est vrai.
Aujourd'hui, au-delà de la gentillesse et des trucs, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est bien conscient que si on veut un axe de développement méditerranéen et si on veut une passerelle vers l'Afrique, ça passera par Alger. Donc c'est l'axe Paris-Alger. Aujourd'hui, la pandémie, qu'est-ce qu'elle nous a montré ? Que nos économies, elles sont mises à mal. Donc il y a besoin de relancer. Donc là, on est bien dans un débat. Est-ce que quand les gens se posent la question, est-ce qu'on est encore dans l'amertume mutuelle des uns des autres en France, ou est-ce qu'on est capable de dépasser pour donner un avenir à nos enfants ? Il ne s'agit pas de déchirer la page, il ne s'agit pas de traverser l'histoire. Il s'agit juste de l'écrire pour pouvoir la tourner et en écrire une nouvelle et permettre à nos enfants d'en écrire une nouvelle ensemble. Il y a ce problème de l'économie qui va peser lourdement sur le monde.
Oui.
Et un des axes économiques de développement, vous savez que c'est la Méditerranée. Donc l'axe Paris-Alger, ce sera l'axe Paris-Berlin pour l'Europe.
Oui.
Et donc les efforts qu'a fait Berlin avec la France pour justement avancer sur l'Europe, Paris et Alger doivent les faire pour avancer sur la Méditerranée.
À l'exemple donc, et à l'image de l'Allemagne.
Exact.
Farid de Pantin, je vous donne la parole, Abdeslam. Farid, bonsoir. Bonsoir, Farid.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, on vous écoute, mon cher Farid.
Moi, je voudrais intervenir sur deux sujets rapidement. Je crois que ça résonne, non ?
Ça résonne si vous utilisez votre haut-parleur, oui.
Ouais.
Non, pourtant, je n'ai pas de haut-parleur. Attendez, je vais bouger, c'est ça, ira mieux.
Alors, on vous écoute, Farid.
Alors, je voulais dire tout simplement que... moi, je ne comprends pas que la France refuse de reconnaître... les crimes commis en Algérie et en Afrique, hein, parce que la France est quand même un ancien empire,
ouais,
alors qu'elle a mis moins de temps que ça pour reconnaître le génocide arménien pour lequel auquel elle n'a pas participé, pour lequel, ça ne la concernait pas indirectement, et pourtant elle l'a reconnu. Et puis moi je remarquais quand même que la France elle a un gros problème avec les minorités, c'est-à-dire quand c'est l'esclavage, c'est niet, quand c'est la colonisation, c'est niet. Mais dès qu'elle a affaire à une puissance à peu près organisée, aussitôt, elle accepte de discuter. Et le deuxième sujet, c'est que je voudrais dire que je suis extrêmement, extrêmement déçu par Rosa Mézel, que j'appréciais beaucoup beaucoup.
Oui.
Même si je trouvais pas normal qu'il y avait tout le temps l'islamophobe Amin El-Karoui à l'émission. Quoi.
Oui.
Mais je suis tellement déçu, je l'écoutais souvent ailleurs. Et vraiment, je suis tombé de ma chaise, hein, j'en revenais pas. Franchement.
Elle vous a déçu.
Comme quoi, les gens ont plusieurs visages, quoi.
Bon, bah merci pour votre intervention, Farid. À très bientôt, 01 53 48 3000. On attend vos appels partout en France. Vous nous appelez. On vous attend, je vous attends, hein, partout en France, sur la question de la colonisation. La France doit-elle présenter ses excuses? La France doit-elle évidemment s'exprimer sur ce sujet? Alors, on a longtemps parlé du volontarisme politique français qui a été salué, je le rappelle, par à la fois les autorités algériennes, mais aussi la presse algérienne. Alors, Abdeslam Itach.
Alors, moi, ce qui me contrarie fortement, c'est cette indignation et géométrie variable. On parlait justement du génocide arménien, très rapidement, où la France reconnaît ce massacre. Mais juste un petit peu d'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le général de Gaulle, après 62, fait passer une loi d'amnistie. Alors, c'est pas lui qui l'a fait voter, il n'est pas président de l'Assemblée.
Non.
Il fait passer une loi d'amnistie qui permet d'amnistier toutes les personnes qui ont commis des crimes de sang pendant l'époque de la guerre d'Algérie. Et je vous rappellerai que le général Ossarès, qui a torturé des Algériens en Algérie, avait fait l'apologie de la torture à travers un livre. Il a été condamné pour avoir fait l'apologie, mais pas pour avoir torturé des Algériens. Et vous voyez, cette hypocrisie, à un moment, elle est insupportable. Donc, réouvrons les livres, voyons, et je l'ai dit tout à l'heure, quitte à me répéter, je m'en excuse, regardons l'histoire dans les yeux, et il faut absolument se dire les choses pour en effet tourner cette page et en écrire une nouvelle.
Bon, une nouvelle phase, donc vous êtes en train de dire un nouvel élan, quelque part.
Complètement.
Un nouvel élan, comme le dit Karim Alouache aussi, mais c'est aussi un nouveau rythme, peut-être, certainement. Est-ce que l'exemple que proposait à l'image de l'Allemagne, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, messieurs, Karim Alouache?
Moi, je trouve que de toute façon, on est condamné à vivre ensemble. Donc ça, c'est un fait.
Et ça c'est une réalité.
Non, mais ça a été décrété en 62.
Ouais.
Donc les deux parties se sont mis d'accord là-dessus. On a besoin aujourd'hui d'avancer. On a besoin de mettre fin à cette histoire. Et je pense que même pour l'Algérie, mettre fin à cette histoire, ça sera un nouvel élan. Et si ça doit passer par une reconnaissance ou par un geste symbolique, il faut le faire, parce que maintenant, on doit tous...
Parler alors de mémoire dangereuse?
Non, mais je dirais, d'abord, on se nourrit pas des mauvaises choses, et on se nourrit pas que de l'histoire, parce que aujourd'hui la réalité est bien plus éloignée. On va être honnête. Prenez aujourd'hui la situation des Algériens en Algérie ou des étudiants algériens en France là, qui sont livrés à eux-mêmes et pour qui c'est extrêmement difficile, qui n'arrivent même plus à se nourrir. Et pour nos étudiants tout court, ça c'est une réalité d'aujourd'hui. L'Algérie arrive aussi à un tournant de son histoire. Elle a un virage à prendre. Et il faut qu'on l'aide à prendre ce virage, parce qu'on a tous, quelque part entre nous, un petit point d'Algérie ou une histoire...
Alors pourquoi ça a été tabou jusqu'ici? C'est ça qu'on voudrait comprendre. Pourquoi le sujet a été tabou jusqu'ici?
Je ne sais pas si le sujet a été
tabou. Ah, il a été tabou,
on en a toujours parlé.
La preuve, c'est que la France...
De la part des autorités françaises, peut-être.
Des autorités françaises, je parle.
Il y a ce qu'on en dit...
Je parle tabou sur la période coloniale des autorités françaises.
Adil, il y a ce qu'on en dit, il y a la réalité du terrain. C'est comme plein de sujets, d'accord. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que je pense que... Vu l'éloignement, et ça fait quand même bientôt 60 ans, hein, donc il est temps de passer à autre chose. Hein. Pour grandir aussi, il faut un peu se détacher du passé. Il est temps qu'on mette fin à cette discussion. Alors, si ça doit passer par un acte symbolique de reconnaissance. Pour moi, ça n'a jamais changé quoi que ce soit à la vie d'aujourd'hui, de déboulonner des statues ou autre. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire, on met fin à ça, et enfin, ça y est, on se donne la main et on construit autre chose. Parce que ces deux pays-là ont des enfants en commun.
C'est une réalité. Adil a raison, c'est quand même tabou. Aujourd'hui, effectivement, un vrai tabou. Parce que, et le président l'a bien résumé, c'est les cadavres de famille dans les placards. Mais au-delà, quand on va ouvrir la page de l'Algérie, un des auditeurs l'a dit, c'est important d'entendre ce que les gens disent, c'est qu'en réalité, c'est toute la partie coloniale, la colonisation qui va être mise en cause. On a parlé de l'esclavage, c'était quand même les ports arrivés à Nantes, c'est quand même la traite des négrières, c'est quand même c'est des crimes aussi d'État, c'est pas des choses. Et donc, je crois que nous serions inspirés sur des valeurs
Parce que le problème aujourd'hui, et on le voit, moi j'ai vu dans ce rapport qui disait qu'effectivement, les enfants de harkis, etc., d'ailleurs, j'aime pas tout le temps, mais pouvaient rentrer en Algérie. Mais moi, je vais pas citer les noms. Ouais. Mais des enfants de harkis en Algérie, j'en ai vu plein. Ouais. Ils rentrent déjà, c'est pas une nouveauté. Après, qu'il y ait des gens qui ne puissent pas y aller, c'est une petite liste et tout ça de ce que j'ai entendu, moi, parce qu'ils ont commis des exactions, mais ça, c'est, ça peut être partout pareil. Donc, vous voyez, il faut pas enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes. Et du coup, on crée aussi de la, des fois, on crée aussi de la complexité là où il y en a pas. Alors que les choses sont, peuvent être simples. C'est-à-dire que il faut pas les rendre compliquées. Et moi, je trouve que c'est vrai que ce rapport, il a au moins un don, et vous l'avez dit, Adil, c'est de faire débat. Oui. Mais on connaît les positions de Benjamin Stora. Je remets pas en cause l'historien. Oui. Je trouve que le rapport, et je finis là-dessus, est un rapport à minima. On a l'impression que c'est répondu à une, ça répond à une commande, mais il en manque, comme le disait tout le monde autour de la table, il en manque quand même pas mal. Il manque plus de 100 ans de colonisation.
Allez, on va marquer une courte pause pub et on se retrouve juste après avec justement le grand déballage. Jacqueline Mellouli, Karim Alouache, Abdeslam Itache et vous, partout en France, 0153 48 3000. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
On va en parler, vous savez, de ce fameux test PCR. Est-ce qu'il est efficace? On parlait notamment du Covid. Mais on va en parler parce que, justement, le véritable casse-tête du reconfinement, c'est tout de suite après le sujet, après avoir fait le tour de table. Alors, je veux juste qu'on clôt un peu, évidemment, ce rapport Benjamin Stora, 0153 48 3000, vous pouvez nous appeler, évidemment, partout en France, sur ce rapport. Qu'est-ce que vous dites, vous, finalement, sur ce rapport, sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie? Alors, à maintes fois repoussé. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'Emmanuel Macron, oui ou non, doit-il faire une déclaration? Doit-il s'exprimer sur le sujet? Doit-il s'excuser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un tour de table et on passe au dernier sujet qui a secoué la semaine. Abdeslam Itache.
Bah, tout d'abord, aujourd'hui, la question qui ne se pose plus, c'est va-t-il y avoir un confinement? Évidemment que oui. La question. Alors. Je comptais
sur
toi.
Parce qu'on va parler confinement après.
Autant pour moi. Non, mais moi, j'étais passé déjà au sujet suivant.
J'ai parlé de
je pense que toute initiative pour rappeler ces questions de l'Algérie, du passé algérien et de ce passé colonial qui fait tant mal, doit être évoqué. On ne peut pas, justement, éluder cette partie de l'histoire. Il faut continuer à avancer, quels que soient les pas. Moi, vous savez, au travail, je l'applique tous les jours, la politique des petits pas. Oui. S'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, eh ben, il faudra ce temps-là. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faille avancer sur ces sujets-là et ne pas les laisser en stand-by, parce que les gens qui, justement, mettent le frein à main pour empêcher, justement, à ce que la vérité se sache, sont très nombreux. Donc, toute initiative est bonne à prendre, quand bien même elle serait d'une infime dimension.
En tant que journaliste et observateur, j'ai remarqué qu'Akli Mellouli tousse pas mal. Qu'est-ce qui se passe, Akli?
Ben, je sais pas, j'espère que je vous ai pas ramené le Covid, mais j'étais ce matin à la réunion des maisons de retraite.
On est tous
passés. Et j'étais à 35.
Karim s'éloigne.
J'étais à 35, 9 Karim, je viens de se barrer.
Attendez, Karim, je vous rassure, vous êtes masqué, je suis masqué. Akli est masqué. Abdeslam Itache est masqué. On est tous masqués. Le réalisateur est masqué. On est tous masqués.
Ouais, comme Zorro.
Voilà.
Mais pas sur les yeux.
Non, pas non, pour aller au bal.
Parce que j'ai eu. D'ailleurs, il n'y a plus de bal masqué maintenant en France. C'est interdit. Non, mais je buvais de l'eau et j'ai dû avaler de travers.
Bon, non, mais je posais. C'était une boutade. Hein.
Non, je sais. C'était mais je boutade. Le dis à nos auditeurs, parce que je voudrais. Nos auditrices et auditeurs peuvent s'inquiéter pour nous.
Mais je vous ai entendu, comme moi d'ailleurs. Voilà. J'ai toussé, mais bon.
Mais ce matin, j'étais en réunion, j'avais 35,9.
C'est parfois, vous savez, c'est psychomatique. Hein. C'est parfois. On tousse parce que c'est dans la tête. Hein. Non, c'est psychologique.
Si vous voulez des conseils sur ça, on peut en parler.
Eh ben, on va parler du reconfinement après. Alors, Emmanuel Macron, il doit s'exprimer ou pas du tout sur le sujet à Akli Mellouli?
Bien sûr, quand même, il est attendu. Mais je pense qu'il attend de voir un peu les réactions un peu partout pour voir quelle ligne il va prendre, quelle forme d'expression il va prendre. Mais de toute façon, je pense que son intervention ne prendra pas d'épaisseur si quelque part, à minima, il n'annonce pas la reconnaissance des crimes coloniaux et de façon sincère et objective.
Alors, et enfin, Karim Alouache, avant de passer au troisième et dernier sujet.
Ben moi, j'aimerais plutôt qu'on parle de la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une fois qu'on a reconnu, est-ce qu'on indemnise, est-ce qu'on n'indemnise pas? Comment on le fait? Est-ce que c'est sous une forme de collaboration, hein, parce que j'aime pas le terme de coopération, parce que la coopération, c'est un peu un terme à une époque qui a quand même une tournure un peu coloniale, ouais. De dire ben maintenant
en collaboration quand, aussi quand, hein.
Non mais on la participation, coparticipation, je pense qu'on a besoin d'échanger. Je pense que l'Afrique est peut-être un vrai tremplin pour la France et l'Europe,
ouais.
C'est clair. Et de dire ben on peut pas effacer l'histoire mais on peut pas réécrire l'histoire, par contre on peut rebondir sur l'histoire et on peut en faire quelque chose de positif, parce que de toute façon on est condamné à vie
ouais.
À vivre ensemble, et ça c'est une réalité, donc autant en faire quelque chose de positif. Si aujourd'hui cette absence de reconnaissance
ouais.
est un frein à la construction de demain, bah, qu'on le fasse sous une forme ou une autre
ouais.
et
ouais.
qu'on passe très très vite, très rapidement à la suite, et la suite c'est la construction.
La suite, c'est la construction. Affaire à suivre, évidemment, dans le grand déballage sur Beurre FM, 18h28. Si vous voulez nous le retrouver, 01 53 48 3000. L'antenne reste ouverte si vous souhaitez, évidemment, vous exprimer sur le sujet. On va parler du reconfinement, du variant, le variant ou les variants du coronavirus qui poussent, vous savez quoi, l'exécutif à réfléchir de façon pénible à des mesures plus restrictives pour éviter de nouveau une épidémie. Dans une autre épidémie, les amis. Hein. Parce que là, je vous le dis clairement, un troisième confinement, il n'est plus à l'étude.
Ah non,
là, ça y est.
Ouais.
Il va être arrêté dans les jours à venir.
Demain.
Sauf qu'on parle d'une piste du reconfinement hybride. Qu'est-ce que ça veut dire, Abdeslam Itache ?
D'abord, t'évoques les nouvelles...
C'est un véritable casse-tête. Hein.
Les nouvelles variantes, justement, ouais, qui sont une vraie préoccupation. On part vers l'inconnu, et moi, la question que je me pose, et que beaucoup de gens se posent, est-ce que ce vaccin aura un effet sur ces variantes ? Est-ce que, si de cette variante, il y a une nouvelle variante, est-ce que le vaccin sera tout aussi efficace ?
Ouais.
Toutes ces questions-là, évidemment, je n'ai pas la prétention de les connaître, je ne suis pas médecin, mais elle pose questionnement, elle inquiète, parce que nous avons des parents, nous avons des enfants, et aujourd'hui, il est vraiment compliqué, justement, d'avoir toutes ces réponses.
Il y a plusieurs scénarios qui sont allés.
Il y a plusieurs scénarios, mais moi, je vais revenir au couvre-feu, et j'espère que tu me feras une autorisation, parce que je suis sorti, comme ça, bien qu'il soit inefficace, et le rapport a rendu, donc, ses conclusions, le couvre-feu jusqu'à 18h a été totalement inefficace.
Ouais,
aucun intérêt.
Ouais.
Si ce n'est que d'empêcher les commerçants de travailler et de ralentir l'économie de ce pays. Donc, c'est un vrai malheur.
Trouver une formule, justement, un peu hybride, comme le dit le gouvernement, c'est-à-dire pour endiguer les variants, cette souche du coronavirus, mais également aussi, vous savez quoi, permettre aux Français, voilà, de continuer à vivre normalement. Je ne suis pas certain, parce que là, je vous avoue que ça risque d'être compliqué.
Pardon.
Je reviens vers vous.
Moi, je crois qu'il faut attendez, parce que je pense qu'effectivement la solution entre guillemets de facilité.
Prenons le temps d'en parler, vraiment.
Ouais, la solution de facilité, c'est effectivement de confiner.
Ouais.
Mais le confinement, il y a aussi des effets négatifs.
Ouais.
On en parlait ce matin avec nos résidents des maisons de retraite intercommunales.
Ouais.
Le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on met en place des gestes barrières pour la protection physique, pour pas qu'ils attrapent le virus. Mais la santé mentale, ouais. L'isolement. On est des êtres sociables. Enfin, l'être humain est sociable. Il a besoin des autres pour vivre.
Ouais,
c'est comme les loups dans les meutes. S'il n'y a pas des règles, il peut pas vivre.
Ouais,
donc
vrai.
on va peut-être éviter le virus, mais on risque de l'autre côté le risque d'aliénation est quand même à nos portes.
Certains redoutent même une révolte populaire.
Bien sûr. Et donc j'y vais à la révolte. Et aujourd'hui on l'a vu aux Pays-Bas. On les a vus parce que à un moment donné ça devient insupportable. Donc et on sait qu'aujourd'hui. Le rythme des vaccinations, aujourd'hui, on est tous prêts à la vaccination, en réalité.
Ouais.
Le problème, c'est le nombre de doses. Vous vous rendez compte, pour un département...
Il n'y en a plus.
Non, mais pour un département, pour un département comme le Val-de-Marne, c'est 5000 doses qui arrivaient par... C'est très minime par rapport aux besoins,
ouais,
par rapport aux 100
vrai.
000 personnes depuis 75 ans qu'on a.
Ouais, ouais.
Mais il y a effectivement aujourd'hui des éléments comme ça. Et je crois que le gouvernement doit trouver une subtilité, parce que après il y a cette vie en société, il y a l'économie. Parce qu'aujourd'hui, je le dis tout de suite très franchement,
ouais.
Les restaurateurs, moi qui est la délégation à la vie économique, je les rencontre, les gens ils sont au bout du rouleau.
Il
y a une coiffeuse, je prends l'exemple de la coiffeuse de la rue principale. Elle vient de racheter son commerce, elle a fait déjà les deux confinements.
Ouais.
Elle m'a dit clairement, Monsieur Mellouli, si on est reconfiné,
ouais.
je peux plus. C'est-à-dire qu'elle a plus, et beaucoup de restaurateurs qui avaient un peu d'argent d'avance, parce que il y a les délais de remboursement aussi qui sont longs. En réalité,
oui.
Ils ne sont pas encore remboursés de la totalité de ce qu'ils ont avancé,
oui.
Y compris pour leurs salariés. Les...
Donc, à un moment donné, les temps, le temps de la redistribution, de la, des aides et tout ça est un peu long. Donc, les gens ne tiennent pas. Et donc, aujourd'hui, l'inquiétude de beaucoup de restaurateurs et de beaucoup de commerçants de proximité, les petits commerçants, d'ailleurs même les autres aussi.
Et le mental des commerçants,
Il est en berne.
Il est en berne.
Ah bah oui, il est en berne.
Messieurs, je vous redonne la parole. On a Jamel de Toulon et on a Akli de Paris. Je vais prendre Toulon. Jamel,
Akli,
bonjour.
C'est bon oeil.
C'est ça, bon oeil, et on a Akli de Paris. Jamel, bonsoir, Jamel.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue mon cher Jamel, on vous écoute.
Bonsoir, bon ben moi j'ai trouvé ça très intéressant, donc je me présente, je m'appelle Jamel, j'ai 40 ans, je suis chef d'entreprise dans la région toulonnaise.
Oui.
Je suis issu de famille, je suis fils d'immigré de famille algérienne.
Oui.
De la première génération, donc.
Oui.
Mes parents sont algériens, ils sont arrivés en France en 1962. Donc moi je suis fratrie de 8 personnes, donc je suis le plus jeune. Moi, j'ai fait mes études en France, j'ai eu mon bac, j'ai eu un diplôme, une maîtrise à la faculté.
Oui.
Je ne me suis jamais comporté d'un point de vue, comment dire, je ne voulais pas que la France ait une vision paternaliste de moi.
Oui.
Donc, des excuses, moi, je n'entends pas. En fait, comme les maires répétaient, Malek Benhadi,
oui.
Si l'Algérie a été colonisée, c'est que...
Elle était colonisable. Dans l'esprit.
Vous
c'était Malek Benhadi. Ouais.
Malek Benhadi. Et moi, en fait, j'attends de la France de rien. J'attends surtout des Algériens et des enfants d'Algériens qui sont français aujourd'hui de ne rien attendre et de vivre pleinement et en pleine conscience leur citoyenneté, leur islamité, tout. Et avoir un grand cœur vis-à-vis de la France, avoir un grand cœur vis-à-vis de nous. Nos parents n'en ont pas eu de rancœur. Pourquoi nous, les enfants, en aurions-nous?
Oui. Oui. Allô, Jamel, vous êtes là?
Oui, je vous entends.
Oui. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous réclamez, Jamel?
Qu'est-ce que je réclame?
Oui.
C'est que la France et qu'il y ait un crime colonial en Algérie, bien évidemment, cela va de soi.
Oui.
C'est nos parents qui l'ont vécu, c'est mes parents. Mon frère a 84 ans, donc les événements, il les a vécus. Je veux dire, c'est un pansement d'abord qu'ils ont à mettre eux dans leur conscience. Et moi, ce que j'attends, j'attends pas que de la France se s'excuse de ce qu'elle a fait.
Oui, oui.
Au nom de quoi moi,
au nom de quoi Merci, Jamel, pour votre intervention. Et merci pour votre fidélité. 18h35, on va marquer la dernière pause pub. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite. Et je prendrai Akli de Paris, qui sera avec nous tout à l'heure au 01 53 48 3000. Continuez à nous appeler partout en France. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Le grand déballage revient.
Le grand déballage revient dans un instant. Peur FM, 17h, 19h. Le grand déballage avec Adil Farkan.
18h40, bienvenue si vous venez de nous retrouver, dernière ligne droite. On va retrouver dans une poignée de minutes le docteur Séhoussine. Le docteur Séhoussine, notre cher docteur qui viendra avec son billet d'humeur pour clore cette émission et nous donner son regard sur le débrief de l'actualité. Alors messieurs, le reconfinement, on va en parler parce que c'est vrai que là, il y a tout le monde s'interroge là. Karim Alouache et Hakim Belouli, je ne vous ai pas entendu.
Oui, mais
alors,
Adil,
l'exécutif, je disais tout à l'heure, il se penche par ailleurs sur plusieurs pistes d'un allongement, figurez-vous, sur la piste d'un allongement des vacances de février pour les écoliers, oui, les lycéens et les collégiens. Mais comment il va se transformer ce reconfinement?
Adil, le problème qu'on a effectivement aujourd'hui, c'est aussi la question de la vaccination et du rythme. Après, il y a aussi un autre sujet qui touche pas que là, qui touche pas la France, mais qui touche le monde.
Ouais.
C'est qu'aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu, c'est l'échec un peu du programme de l'OMS, mais c'est aussi le fait qu'il va y avoir encore de plus de différences entre les pays pauvres et les pays riches.
Oui.
Les pays riches sont en train de s'accaparer les vaccins, les pays pauvres n'en ont pas. Donc, soit effectivement, on s'intéresse globalement à la planète et aux gens, soit effectivement, aujourd'hui, on est dans ces inégalités qui sont trucs. Et le Covid, aujourd'hui, est en train aussi de montrer dans notre pays d'accroître les inégalités. Ça, on n'en parle pas. Les inégalités sont en train de s'accroître parce que ce sont en priorité les pauvres, les plus démunis, les isolés qui sont en train de subir de plein fouet cette maladie.
Et les
Donc, on est en train de...
Alors
et les quartiers populaires. On est en train, ouais, parce que vous soyez confinés, quand vous êtes confinés dans une maison avec piscine, ouais, ou un appartement de 100 mètres carrés, à 3, c'est pas la même chose qu'à 5 ou 6 dans 30, 35 ou 40 mètres carrés. Et donc, ça va être un vrai, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème de société, c'est un vrai problème d'inégalité, et tout ça, il va falloir apporter des réponses. Ça, c'est le but du gouvernement.
Vous ne répondez quand vous prenez pas. Alors, autant ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que ce reconfinement, on peut parler d'ores et déjà d'un échec pour la France ou pas du tout?
Non, on peut pas parler. Enfin, c'est Adil, c'est de prévoir les choses. On peut parler d'échec ou pas. Aujourd'hui, on peut se poser la question de la stratégie. Non, mais c'est un échec de stratégie. C'est un échec de stratégie. On peut se poser la question de la stratégie. Et puis surtout sur les vaccins, parce que c'est aussi ça. Il nous avait dit que les vaccins.
Il n'y a plus de vaccins, mon cher Akhil.
C'est ça. Et ben on est d'accord. Donc il y a un problème.
Il n'y a plus de vaccins.
Il y a un problème de stratégie globale.
Karim Alouache.
Tout d'abord, moi, ce que je voudrais dire...
Je peux vous dire quelque chose quand même avant ?
Oui, vas-y.
Cependant, les Français acceptent de moins en moins les privations de liberté. Un sondage, c'est ce que disait Akhil Mellilou tout à l'heure, pour Benoît-sur-Marne. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a un sondage qui a été publié, justement sur l'état de santé et l'état moral, hein, concernant donc les Français. Et il n'est pas forcément bon, ce sondage, parce qu'il dit clairement que 48% des Français approuvent, évidemment... qu'il y a un problème, mais surtout 93 de l'autre côté de la population s'interrogent encore et se disent s'ils sont favorables ou pas. Karim Alouache.
Vous connaissez mon histoire et vous savez d'où je reviens, puisque j'ai été très gravement touché par le Covid en mars.
On a organisé une émission spéciale ici.
En mars, et on avait fait une émission spéciale Et je vous rappelle que j'ai contracté ce virus en tenant un bureau de vote pendant les élections municipales.
Ouais.
Et ceux qui crient au loup aujourd'hui sont ceux qui ont refusé, comme le président du Sénat, comme Laurent Fabius, qui était prêt à aller jusqu'au plus haut niveau, pour maintenir coûte que coûte ces élections municipales. Et les chiffres le montrent. Il y a parmi les assesseurs, parmi les militants qui ont fait ces élections municipales, on a payé un très 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 lourd tribut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile et il n'y a pas de bonne solution. Il n'y aura que des moins mauvaises solutions.
Oui.
C'est la deuxième chose. Donc, il faut prendre les décisions du gouvernement. Et j'ai été frappé par ce virus, mon coma, mes 2 mois d'hôpital, etc. Alors que les élections n'ont pas été annulées. Il faut prendre avec la plus grande humilité toutes les décisions du gouvernement aujourd'hui parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement complexe et quelques personnalités politiques honnêtes l'ont dit. Si j'étais aux commandes, je ne sais pas comment je gérerais ça parce que je dis, il n'y a pas de bonne solution. Et quand je vois sur les réseaux sociaux des sénateurs écrire des horreurs en disant c'est quoi, c'est nul, c'est incapable, je trouve ça honteux. On doit faire preuve en ce moment de solidarité.
De cohésion.
Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre.
Vous parlez comme Emmanuel Macron.
Et il faut
son côté banquier d'affaires.
La classe politique. Moi, je suis désolé, je suis virulent, mais c'est un coup de colère. Et vous connaissez mon histoire avec le Covid. La classe politique en ce moment donne une mauvaise image. Des sénateurs qui écrivent sur les réseaux sociaux, ce sont des incapables. C'est un vrai scandale. C'est un appel à la haine. La désobéissance. Oui, c'est dur. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. On n'en peut plus. Et c'est parce qu'on n'en peut plus qu'il ne faut pas que ça dure. Vous savez, en prenant les petites mesurettes, en disant... Ce que disent les médecins, à l'unanimité, tous les médecins, ils vous disent, si vous voulez stopper le virus, il faut tout fermer. Voilà. Ce qu'ils vous disent, médicalement parlant. Il faut tout fermer. Ce que dit le gouvernement, je ne peux pas tout fermer. On ne peut plus tenir.
C'est les commerces non essentiels.
Et la question qui se pose, c'est
non essentiel.
Est-ce qu'on veut sortir rapidement de cette situation ou est-ce qu'on veut faire des confinements partiels, ceci, cela, on réouvre, on
va faire... Vous savez, hybride.
Vous savez ce que disent les médecins?
Oui.
Le monde médical vous dit, si on fait des confinements, parce qu'on ne fait pas de vrais confinements, il en faudrait 8 ou 9 pour sortir définitivement du Covid.
Oui.
8 ou 9, c'est-à-dire qu'on est parti pour 3 ans. Est-ce qu'on peut tenir encore comme ça pour 3 ans? Non. Est-ce qu'il faut faire un effort? Vous avez raison, c'est dur pour tout le monde. Je vous rappelle que les enfants, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des gamins qui vivaient dans des caves pendant des mois, des années, Anne Frank et autres. Ils n'avaient pas le droit de parler, ils ne voyaient pas la lumière, Ils avaient à peine le droit de manger et ils ne devaient pas faire de bruit. Et alors, ils ont tenu. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est bien beau de taper. Je suis pas là en défenseur de qui que ce soit. Mais regardez ce qui se passe à l'étranger. Regardez l'Angleterre qui a été hyper laxiste, qui aujourd'hui dépasse les 100 000 morts et que le Premier ministre présente ses excuses. Le roi de Suède a présenté ses excuses. Tout le monde disait la Suède, c'est formidable. Le Portugal est a dépassé tous les records par nombre d'habitants.
Allez, messieurs,
attends, il y a un échec européen.
Finalement, ça s'en passe mal.
Un échec européen, l'Europe a été complètement absente. Énormément.
En ce qui concerne les vaccins, c'est pas la France qui a acheté les vaccins, c'est l'Europe.
Oui,
c'est l'Europe qui a acheté les vaccins.
Mais l'inexistence de l'Europe.
Ce que je vous propose tout de suite, c'est justement ce de découvrir tous ensemble, débrief du docteur Sioussine.
Peur FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Docteur Sioussine, bonjour.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, toujours un plaisir de vous retrouver. Vous êtes le chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, vous êtes médecin. Me semble-t-il, je crois que vous êtes aussi également, vous occupez des militaires à l'hôtel aux Invalides, me semble-t-il. C'est beau, docteur Sioussine, y compris à l'hôtel Invalide. Alors dites-moi, mon cher docteur, le débrief de cette semaine, de quoi allez-vous nous parler?
Écoutez, mon cher Adil, cette semaine, l'actualité nous prouve que la violence est partout.
Oui.
On organise un bureau de la sécurité pour essayer de discipliner les pratiques policières. Police que nous soutenons toujours dans sa tâche qui est loin d'être facile, mais que nous critiquons avec constance quand elle déborde et commet des actes qui entachent l'honneur de son uniforme.
Ah oui.
Comme ce jour d'ailleurs où vous en avez fait l'expérience après avoir été verbalisé parce que vous conduisiez votre scooter en tutu sous la neige.
Il fallait pas le dire.
Balance.
On doit dénoncer tous les délits faciès, quelles qu'en soient les victimes. L'actualité est bien triste aussi quand on nous apprend qu'un forcené a abattu une pauvre conseillère de Pôle emploi et une DRH. On est toujours dans ces situations-là un peu étonnés par deux choses. D'une part, la libre circulation des armes, qui ne cesse de m'inquiéter, et le trou dans la raquette du dépistage psychiatrique, ce qui ne me surprend guère compte tenu de l'état de délabrement du système de santé. Et ce qui ne nous laisse pas d'être inquiets, au vu de la catastrophe psychiatrique qui s'annonce à l'issue de l'épidémie et du reconfinement qui est attendu, annoncé, pas encore arrivé.
Oui.
Avez-vous constaté, comme moi, dit l'état de délabrement psychologique de nos concitoyens?
Ah, ça, on vient d'en parler il y a quelques secondes à peine.
À l'aune de cette tension psychologique,
exact.
On comprend les réticences du président à décréter un nouveau blackout.
Oui.
Retentissement sur l'économie, bien sûr, mais aussi un retentissement sur nos vies personnelles. Souvenez-vous, lors du premier confinement, on avait observé un accroissement de 30% des signalements pour violences conjugales.
Oui.
Pendant le premier confinement, on a observé une baisse des consultations dans les centres de santé mentale, les hôpitaux de jour, les hospitalisations étaient réduites. Et la conséquence a été un afflux majeur de patients en juin 2020.
Oui.
Il faut donc être particulièrement vigilant au choc que représente cette période pour nous tous. Les pouvoirs publics le savent bien d'ailleurs, et cela explique l'hésitation dont je vous parlais plus haut. Il faut que chacun d'entre nous soit vigilant pour lui-même et pour les autres, et nous devons réapprendre à nous intéresser à autrui. L'isolement et l'indifférence de nos sociétés sont beaucoup plus graves que la Covid.
Ouais.
Pensez à tous ces vieillards délaissés qu'on croise dans les hôpitaux, aux SDF qui sont dehors en ce moment, dans le froid, aux handicapés, qui tous méritent notre regard.
Oui. On devient indifférent, c'est vrai. Hein.
Cette atmosphère dans laquelle nous flottons, faite de nervosité, d'anxiété, voire parfois même d'agressivité à laquelle il ne faut pas se laisser aller, nous invite à tous à faire un travail sur nous-mêmes.
Ah oui.
Bon, ben, j'ai fini mon petit billet.
Non mais, vous savez, je suis resté silencieux parce que vous m'avez un peu abattu avec cette indifférence concernant les sans-abri, les SDF, et c'est vrai que j'étais en train de réfléchir, docteur, pour tout vous dire, en même temps en écoutant attentivement votre billet. C'est vrai que quand on passe maintenant devant les SDF, on ne calcule plus personne. Et vous avez raison. Vous avez raison. C'est vrai. Je viens de remarquer que je ne prête même plus attention à ces personnes. Mmh. Et ce n'est pas normal.
Et ça, c'est la pire des offenses qu'on puisse leur faire.
Vous avez raison, docteur. Comment ça va la situation en ce moment? Karim Alouache poussait un cri d'alarme. Qu'est-ce que vous en pensez?
On n'est pas encore à la situation qu'on observait en mars-avril, mais on sent très bien que ça monte. Dans l'hôpital où je travaille, on vient d'ouvrir une deuxième unité Covid. On a un peu plus de la moitié de nos patients en réa qui sont atteints de la Covid et on n'a plus de place en ce moment en réanimation. Donc effectivement, c'est un peu plus tendu et ce qui est plus inquiétant, c'est l'état d'exaspération et de fatigue des soignants qui sont touchés par cet état psychologique dont je parlais plus haut.
Eh bien, grand merci, mon cher docteur Sioucine. Grand merci à vous et à la semaine prochaine, sans faute.
Si vous me permettez une question, je vais vous faire un aveu.
Oui, dites-moi, quel aveu voulez-nous faire ?
Je voudrais savoir si vous allez me réinviter la semaine prochaine, malgré le fait que j'ai été manger un falafel rue des Rosiers sans demander l'autorisation.
Mais vous aviez pas le logo Beurre FM collé sur le front. La faute que vous avez commise, c'est de ne pas avoir ramené des falafels pour tout le monde sur le plateau. Ça, c'est une faute grave.
Ça, c'est une faute très grave.
Parce qu'on aurait bien mangé des falafels avec vous, qui sont très bons d'ailleurs,
Olivier Roger. Je fais référence à l'article de Marianne. Bravo, très bon, joli, évidemment. Merci, mon cher docteur. Très bon week-end et prudence à vous, surtout.
À bientôt, au revoir.
Bon courage, à très bientôt, mon cher docteur. C'est aussi une chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, médecin, qu'on retrouve dès la semaine prochaine, 18h52-53 précisément. On fait juste un tour de table rapide. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles qui vous écoutent et qui se disent finalement, vous savez quoi ? On est inquiet. On ne sait pas à quoi va ressembler ce troisième confinement. On ne sait pas où on va. Vous avez parlé de la santé, de notre population. Notre jeunesse qui n'y croit plus du tout et qui a évidemment son statut en berne. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Tour de table rapide avant de rendre l'antenne. Abdeslam Itach.
Alors, moi je suis inquiet pour mes parents, pour nos parents. Parce que quand on entend dans notre entourage les gens qui sont touchés par la Covid et qui en décèdent, c'est un vrai drame et une très grosse inquiétude. C'est aussi la scolarité de nos enfants. Moi, j'ai ma dernière fille qui passe son bac de français cette année. C'est très compliqué. Du coup, elle est sur du continu. Je ne sais pas si ça sera considéré comme un bac au rabais. Voilà, moi, je suis vraiment inquiet. Et au niveau scolarité, ce n'est pas bon du tout.
Il me reste 30 secondes. 10 secondes.
Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est de faire attention, c'est vrai, de se protéger, mais surtout d'être résilient. Ouais. De garder cette volonté qu'effectivement, il y a toujours des lendemains meilleurs et qu'on doit se préparer à se battre pour justement continuer à vivre.
Karim Alouache.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité, il faut rester soudé. Il y aura peut-être un effort à faire. Et j'ai un petit message à passer à ma fille, si vous me permettez.
Oui, bien sûr.
Inès, baguette croissant. Voilà.
Moi aussi, j'ai un message pour ma fille. Mimi, je t'aime.
Baguette croissant, il est fort, lui, il est fort. Merci, monsieur. Merci à Klimé Louli. Merci à Karim Alouache. Merci à, évidemment, Abdeslam Itach, à la réalisation, donc c'est à Nice. Merci à vous. À la semaine prochaine, vous le savez, avec autant de plaisir. Prenez soin de vous, les amis. Prudence, prudence, prudence.
Retrouvez le grand déballage tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre.